University of Cambridge International Examinations. Pre-U French Principal Course 9779, Paper 2, May-June 2011. Part 2. Listening. You are advised to spend 1 hour on this section. You may listen to the passages as many times as you wish on your individual listening equipment.
Texte à écouter 1. Le professeur Bricker parle des épidémies.
Professeur Bricker, vous êtes venu nous parler des épidémies, un sujet qui inquiète avec le retour de la grippe. Comment les infections se développent-elles?
Eh bien, cela est dû à deux facteurs. D'abord, à une augmentation énorme de la population mondiale ces 20 dernières années. Mais le facteur le plus important est la dégradation des écosystèmes. Car cette dégradation, qui est entièrement causée par l'être humain, a des effets sur notre santé. Les virus existaient auparavant, mais les écosystèmes nous protégeaient. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils laissent passer ces virus, ces agents infectieux, directement sur l'homme.
Vous accusez surtout les changements climatiques.
Oui, bien sûr. On pense le plus souvent au réchauffement climatique. Mais c'est également la baisse de la durée d'enneigement dans les montagnes qui est à l'origine de certaines infections, car les virus n'ont pas le temps d'être détruits par le froid.
Je suppose que dans l'agriculture moderne, c'est l'élevage avec ses énormes concentrations d'animaux qui favorise la contagion, non?
Tout à fait. La propagation des maladies est spectaculaire. Par ailleurs, on augmente les cultures et il faut bien, puisque la population n'arrête pas d'augmenter. Alors, on irrigue de plus en plus. Et bien sûr, toute cette eau transporte les virus. Et c'est cette irrigation qui propage les infections.
C'est sans doute dans les pays pauvres que les épidémies se développent surtout, non?
Oui. À cause de raisons évidentes, les mauvaises conditions d'hygiène et la moindre résistance aux infections des gens pauvres. Mais on oublie la raison principale. Un pays pauvre n'a pas les moyens financiers de prévenir les épidémies, car ça coûte cher. Il faut surveiller, puis faire un diagnostic très très vite. Et ça, c'est essentiel. Et finalement, il faut avoir les ressources médicales pour développer un vaccin. Texte à écouter 2. Interview avec un reporter photographe.
Michel, vous êtes reporter photographe. Un métier qui fait rêver beaucoup de jeunes. Des voyages aux quatre coins du monde, un appareil photo à l'épaule.
Ah oui, on peut dire que ce métier a une belle image. On pense toujours aux grands reporters, dont les photos paraissent dans les magazines très connus. Mais, vous savez, ces photographes sont rares. Les autres gagnent difficilement leur vie.
Mais vous, Michel, vous êtes connu, non?
Eh bien, j'ai dû me spécialiser dans les reportages difficiles. Les guerres, les conflits partout au monde. Irak, Palestine, Israël et Soudan. Dans ce genre de reportage, on prend constamment des risques. Des risques physiques, mais aussi des risques psychologiques. Car, vous savez, on ne revient jamais indemne d'avoir vu, connu, les ravages de la guerre.
Alors, pourquoi choisir ce genre de reportage?
Parce qu'il faut que quelqu'un soit là, sur place, pour témoigner de ce qui se passe dans les pays touchés par des conflits, pour montrer au reste du monde, l'enfer que vivent quotidiennement les gens pris dans ces guerres. Et la photographie est un moyen très fort. On n'oublie pas une photo. Ou du moins, c'est mon travail de faire des photos qu'on n'oubliera jamais. Pour moi, c'est essentiel.
Quelles connaissances faut-il avoir pour faire ce métier? À part des connaissances en photographie, bien sûr.
Des connaissances pas spécialement. mais la passion de la photographie, oui. À l'école déjà, je faisais des reportages photographiques avec n'importe quel appareil qui me tombait sous la main. Mais à l'université, j'ai absolument voulu étudier l'histoire, par intérêt, par curiosité. Ces études se sont révélées extrêmement utiles dans mon travail. Car on est avant tout journaliste, et sur le terrain, mes connaissances en histoire me permettent de mieux comprendre les racines du conflit. Texte à écouter 3. Une république multiculturelle et post-raciale? Il me semble que les attitudes envers le racisme en France ont évolué ces derniers temps, non?
L'histoire coloniale de la France a rapproché des individus qui venaient de tous les continents. Aujourd'hui, 50 ans après la décolonisation, c'est vrai que la France commence enfin à confronter les événements du passé et le racisme. Mais quand on y regarde de plus près, on se demande, vous savez, si les attitudes ont vraiment changé. Les minorités restent peu nombreuses dans la haute administration et encore plus rares dans la diplomatie. Quant aux médias, un seul présentateur noir au journal télévisé. Où est la représentation d'une nation multicolore? Pas étonnant alors que les minorités se replient sur elles-mêmes. On parle alors de communautaristes, mais il s'agit en fait d'une solidarité qui rassemble ces différentes minorités qui souffrent de discrimination. Il est temps de sortir de cette attitude et définitivement.
Certains voient notre diversité culturelle comme une menace pour l'identité française.
Et c'est tout à fait faux. Être français, ce n'est pas une permanence. Ce n'est pas un concept fixe. C'est le désir de vivre ensemble, d'avancer ensemble dans ce pays riche de nos identités mêlées. Notre diversité culturelle n'est pas un obstacle, mais la condition de notre unité. Et c'est pourquoi la multiculturalité partout doit être encouragée par une action positive à la française. Dans la culture, les entreprises, la haute administration, les partis politiques, l'éducation. Partout, nous devons avoir une politique multiculturelle fraternelle. Cela doit être un projet d'avenir pour tous. La France a l'obligation de sortir du spectre de l'identité nationale et d'aller vers l'avenir.
This is the end of the recorded material.